Béni soit le Seigneur. Vous pouvez vous approcher, si vous trouvez des places, sur le devant, bien entendu. Dans le psaume 32, il y a le témoignage d'un homme qui a expérimenté ce qu'était le pardon. Peut-être que vous avez fait plein d'expériences sur la terre. Nous, en tant que pasteurs, nous sommes amenés à voir des gens qui ont fait des expériences. Tiens, telle personne avait un cancer, la personne a été guérie. Est-ce que ça arrive? Oui, ça arrive. Telle personne était dans une dépression profonde et la grâce de Dieu a touché cette personne. Elle a été guérie de la dépression. Est-ce que Dieu peut le faire ce soir? Oui. Telle personne était sans emploi et dans la difficulté financière depuis des années. Eh bien, Dieu a pourvu. On a vu ça maintes et maintes fois. Et nous observons au fur et à mesure que nous côtoyons des hommes, des personnes qui gravitent autour des églises, autour de la parole de Dieu, que bien des personnes font de belles expériences matérielles, physiques, professionnelles, familiales, sociales, etc. Et ce sont des choses excellentes. Pourquoi ? Eh bien parce que ça nous montre la fidélité de Dieu dans toutes choses. Que Dieu peut pourvoir à tous nos besoins. Hélas, il se produit très souvent que ces mêmes personnes qui ont expérimenté la fidélité de Dieu, la provision de Dieu, la direction de Dieu, même dans certains domaines, n'ont pas connu la joie du pardon. Nous avons plusieurs témoignages dans la Bible. Je pense aux 10 lépreux, 10 personnes qui se sont approchées de Jésus. Jésus leur dit une parole, « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et il est écrit que pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. 9 sont partis à leur occupation et 1 est revenu pour s'occuper du salut de son âme. Et c'est ce que je voudrais que nous partagions ce soir par le biais du psaume 32, le témoignage de David. Le psaume 32, David, vous y êtes ? Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché et pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Retenez bien cette expression, dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Une fois de plus, dans ce psaume, nous voyons l'opposition que Dieu met entre le juste et le méchant. Vous avez vu verset 10, beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Et au verset 11, juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Dans le royaume de Dieu, il y a les méchants et les justes. Dans le monde, il y a les pécheurs et les croyants, ou les croyants. Mais dans le royaume de Dieu, il y a ceux qui s'attachent à Dieu et il y a ceux qui ont une religion inutile, mais qui s'appuient sur cette religion. Cette expérience, elle a été faite par un homme qui a souffert longtemps du péché. Alors, il y a une autre question d'honnêteté là-dedans. Vous savez que Jésus, dans la parabole du semeur et du terrain, il dit que celui qui porte du fruit, c'est celui qui écoute la parole avec un cœur honnête. Ce soir, Dieu ne regarde pas au nombre. Vous aussi, j'espère. Dieu regarde au cœur. Quand quelqu'un est seul dans sa chambre et qu'il fait son culte avec cette honnêteté, le regard de Dieu est exactement le même que s'il y avait 3000 personnes pieuses qui louaient et chantaient pour, entre guillemets, attirer la faveur divine. Vous avez remarqué que ce psaume commence par la conclusion, en vérité. Parce qu'en vérité, la conclusion, c'est la joie du pardon. Après une démarche. Mais David est tellement content qu'il commence par la conclusion. Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Et nous voyons qu'il commence en donnant cette vérité dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. S'il y a bien quelque chose qui empêche la bénédiction, c'est d'être compliqué, tordu, frauduleux, malhonnête, de ne vouloir s'approcher de Dieu que pour la bénédiction. Moi, Dieu, je le veux de mon côté, parce que je veux que Dieu m'arrange mes affaires, je veux que Dieu bénisse mes affaires. Ça, c'est de la fraude. Je crois que le cœur honnête, c'est un cœur qui dit, moi, je veux m'approcher de Dieu, je veux connaître sa volonté, je veux savoir ce que Dieu veut dans ma vie. Et là, nous avons affaire à un homme qui connaît ses dieux et qui pourtant, pendant longtemps, n'a pas réglé un péché. Vous savez, le péché, tant qu'on ne le règle pas, on en souffre. C'est comme ça. Il y a dans Ésaïe un texte, il est dit, le péché, nous en souffrons longtemps. Une fois, on peut le lire, ce texte est dans Ésaïe 64. Dans Ésaïe 64, il y a un verset, moi, qui m'a longtemps interpellé. Et j'ai compris pourquoi. Ésaïe 64, verset 4. Mais c'est la deuxième partie qui nous intéresse, de ce verset 4. Lorsqu'il est dit, mais tu as été irrité, parce que nous avons péché, et nous en souffrons. Comment vous avez dans votre Bible? Longtemps. Le péché, nous en souffrons longtemps. Ça fait réfléchir, non? Le péché, nous en souffrons longtemps. C'est écrit. Et moi, je dis aussi, mais pourquoi? Eh bien, on en souffre jusqu'à ce qu'on le règle. Tant qu'on ne le règle pas, on en souffre. C'est ça que ça veut dire. Le péché, nous en souffrons longtemps. Et David, tout roi qu'il était, tout homme de Dieu qu'il était, tout homme selon le cœur de Dieu qu'il était, tout homme choisi par Dieu, il en a souffert jusqu'à ce qu'il le règle. Et ce psaume nous indique que on ne trompe pas Dieu, mais ce qu'on sème, on le récolte, et que si l'on joue avec le péché nous atteindra. Il y a un psaume qui dit « Quelqu'un mettra-t-il du feu dans ses vêtements sans qu'il ne se brûle ?» Et le péché, c'est comme ça. Et David était roi, et à un moment donné, il a failli. Il a essayé de couvrir ça, personne ne savait, à part Dieu, bien sûr. Et le temps a passé, mais le témoignage est alarmant, on l'a lu, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. Nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. » Quel témoignage de ce qui se passe intérieurement dans l'âme d'un homme qui ne veut pas régler un péché. Et dans le monde, les gens font semblant, les gens jouent un rôle, bien sûr, c'est normal, on ferait pareil à leur place. Et le témoignage est là, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » C'est pour ça que beaucoup de gens se déclarent athées. Ils essaient de cette façon-là de régler le problème du péché. Dieu n'existe pas, donc il n'y a rien à régler, et ils anesthésient leur conscience. Mais une fois qu'on a découvert la parole de Dieu, on sait très bien qu'il y a des choses, il faut les régler. Le Seigneur Jésus, dans le sermon sur la montagne, n'arrête pas, nous dit, non, avant de présenter ton offrande, qu'est-ce qu'il dit? Va te réconcilier avec ton frère. Voilà. Quand tu pries, oui, si tu as à la foi comme un grain de sénévé, tu peux déplacer les montagnes. Mais il ajoute, mais si tu as quelque chose contre ton frère, pardonne. Parce qu'il y a des choses qu'il faut régler. Nous avons un Dieu d'ordre, un Dieu de sainteté, et ce psaume est là pour nous rappeler que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit dans la paix. Mais qu'on peut la perdre, la paix. On peut la perdre. David l'a perdue. Il n'y avait pas de passe-droit, parce que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de chouchou. Dans le royaume de Dieu, on est tous à la même enseigne, on est tous sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de favoritisme, d'ailleurs c'est dit plusieurs fois. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et là, nous en avons la preuve. Il y a des gens qui s'imaginent, oh, ben, Dieu va passer, j'ai péché, mais bon, avec le temps. Non, avec le temps, il n'y a rien qui se règle, à part le deuil. Quand on perd un membre de la famille, quand on perd quelqu'un qu'on aime, avec le temps, quand même, la peine s'efface. Heureusement. Et puis Dieu nous console. Voilà, la seule chose que le temps règle, c'est la peine que l'on peut avoir suite à un deuil. Mais le péché ne se règle pas par le temps. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Et nous voyons aujourd'hui de plus en plus de gens qui couvrent le péché, qui le banalisent, comme le pasteur Jérémie le rappelait cet après-midi. Des gens qui disent, mais non, c'est pas grave, tout le monde fait pareil. Mais le résultat de l'affaire, c'est que les gens n'ont pas la paix. Alors que le royaume de Dieu, c'est un royaume de paix. S'il y a bien quelque chose que Dieu veut faire ce soir, c'est vous donner ou vous redonner la paix. Et peut-être que vous devrez vivre la même expérience que le roi David, qui à un moment donné a dit « ça suffit ». C'est vrai qu'il a été interpellé par un homme de Dieu qui s'est présenté chez lui et qui lui a dit « écoute David, j'ai une histoire à te raconter ». Est-ce que Dieu peut parler à quelqu'un ? Oui. Peut-être que vous ne cherchez plus Dieu. Peut-être que vous vous êtes arrangé pour tout en étant à l'église, tout en étant de temps en temps dans une assemblée, à dire voilà, je veux bien entendre quelque chose, mais ce problème-là, je ne le règle pas. Ce problème que personne ne connaît, je ne le règle pas. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on voit un homme desséché, un homme déprimé, un homme malheureux, vous rendez compte, je gémissais toute la journée. C'était pas trois quarts d'heure par jour, c'est toute la journée. C'est terrible, ça vous est déjà arrivé ? Moi, ça m'est arrivé de perdre la paix, à cause de l'amertume que j'avais eue contre un frère. Mais ça ne se voyait pas. L'autre jour, je regardais une photo de cette époque-là, mais personne n'aurait pu le savoir. J'étais souri, vous savez quand on prend des photos ? Mais personne ne le voit. Mais intérieurement, c'était la tristesse. D'ailleurs, la Bible dit qu'un sourire joyeux peut cacher le chagrin. C'est écrit. Et j'ai compris que le péché, il ne faut pas attendre. Ça a duré 6 mois. Moi, je n'ai pas été très intelligent. J'ai traîné cette affaire 6 mois. Mais ça aurait pu être dangereux, parce qu'on peut finir par s'endurcir, et ne plus croire après au pardon. Il y a des fils prodigues qui ne sont jamais revenus à Dieu pour la simple et unique raison qu'ils n'ont plus cru que Dieu pouvait les pardonner, alors que Dieu dit qu'il ne se lasse pas de pardonner. Venez avec moi dans le psaume 103. Vous gardez le psaume 32. Et vous venez avec moi dans le psaume 103. Nous avons là quelque chose d'extraordinaire. C'est également David qui l'a écrit. C'est pour ça que David savait revenir à Dieu. David connaissait Dieu. Il savait très bien que Dieu a le pouvoir de pardonner, le pouvoir de restaurer. Quelle grâce d'avoir un Dieu qui pardonne. Dans le psaume 103, il est dans un moment d'exaltation, il bénit Dieu, regardez ce qu'il dit. On va lire à partir du verset 1er. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » Toutes. Toutes, vous savez ce que ça veut dire ? Toutes. Toutes les iniquités. Ça ne vous rassure pas ? Mais combien c'est bon. Vous rendez compte, c'est lui qui pardonne. Voilà, c'était pas le même bonhomme ce jour-là. Vous avez vu ? C'était pas le même jour. Il est dans un esprit de victoire. Il ne peut pas faire autrement que de bénir Dieu. Il pardonne toutes tes iniquités. Il guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aible. Moi, je trouve que c'est bien. Verset 9. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Regardez un petit peu plus loin dans Ésaïe, au chapitre 55, cette histoire de pardon, c'est important le pardon. J'ai parlé en introduction des gens qui font des expériences de guérison, de délivrance, de provision, de travail, etc. Mais ils ne connaissent pas le pardon de Dieu, que c'est triste. Psaume 55, Ésaïe 55, verset 6. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu. » Qui ne se lasse pas de pardonner. Moi, je l'ai souligné, ça. Vous ne trouvez pas que c'est formidable? À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Mais ce n'est pas parce que le pardon de Dieu est immense, que Dieu ne se lasse pas de pardonner, qu'il pardonne tout, que c'est réglé. Quand Jésus, sur la croix, prononce la première parole, il vient d'être crucifié. Vous savez ce qu'il vient de vivre, les 24 dernières heures ont été les heures que personne n'a jamais pu vivre sur la terre. Tellement elles sont douloureuses, intenses, pour nous. Il vient d'être crucifié, attaché. Et la première parole qu'il prononce, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Est-ce que pour autant, tous les hommes sont pardonnés? Et non. Du côté de Dieu, nous avons la preuve que le pardon est accompli, est acquis, est donné. Mais Dieu pardonne. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Dieu pardonne toutes nos iniquités, mais il faut régler le péché. Et David exprime bien le fait que, quelles que soient les vertus d'un homme, les exploits d'un homme, parce que c'était bien après qu'il ait tué Goliath. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était bien les expériences qu'a fait David? Est-ce que Dieu lui a dit, bon, quand même, il a donné la victoire à Israël, allez, bon, allez. Non. Malgré le fait que ça soit un héros, un homme remarquable, le péché, il fallait qu'il le règle. Ça s'appelle la repentance. Je te demande, Seigneur, de me pardonner. Ce n'est pas du regret. Je me souviens de cette dame, son mari l'a tapée, l'a trompée. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, « Monsieur Gault, il s'est excusé. Il s'est excusé, ça y est, c'est gagné. » J'ai dit, « Non, il regrette de vous avoir fait de la peine. » Mais ne confondez jamais le regret avec la repentance. Et là, elle m'a dit, « Vous avez bien raison, il a recommencé. » Quand la Bible parle de régler, c'est pas du bout de lèvres, excuse-moi Jérémie, non, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui nous met en contact avec Dieu. Le regret, il n'y a pas besoin d'être en contact avec Dieu, oh, je regrette, et je recommence. J'ai péché, et je recommence, c'est le regret. Et il y a des gens qui font, Seigneur, je demande pardon, je repars à zéro, je recommence tout avec toi, Seigneur, c'est fini, c'est des regrets. La repentance, elle vous délivre. C'est pour ça que David exprime ce bonheur, cette joie. Il passe de l'apesantissement, de la douleur, de la misère, à une véritable joie. Il le dit, tu m'entoures de chants de délivrance. Vous voyez, il ne faut pas beaucoup de temps. Le temps de se repentir sincèrement. En tous les cas, la douleur est là, la souffrance est là. Je gémissais toute la journée. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. Et c'est vrai que ce psaume nous enseigne aussi que c'est pas évident de s'approcher de Dieu. Vous avez vu ce qui est écrit? Verset 9, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Voilà le problème. David ne s'est pas approché de Dieu. L'histoire nous enseigne que ça a duré un an. Il ne s'est pas approché de Dieu. Et il compare donc l'homme qui ne s'approche pas de Dieu, un animal, un mulet, l'homme animal, l'homme qui marche sans Dieu. Et c'est vrai, il y a des gens qui me le disent, mais je le sais, il faut que je m'approche de Dieu. Je viens à l'église. Non, il ne faut pas venir à l'église. Il ne faut pas que venir à l'église. Il faut s'approcher de Dieu. Et on sent bien qu'il y a un combat qui voudrait que nous n'obtenions pas le pardon de nos péchés. Et bien sûr, l'ennemi, l'adversaire, il ne veut pas qu'on connaisse la grâce. Il ne veut pas que vous connaissiez le pardon. Il ne veut pas que vous connaissiez la joie du pardon. C'est pour ça qu'une bénédiction, et ce soir, si quelqu'un a besoin de la bénédiction, mais demandez-la. Ce n'est pas dit, demandez. Ce n'est pas écrit? Est-ce que c'est écrit plusieurs fois? Demandez, vous recevrez. Jésus dit, mais si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses, votre Père Céleste vous donnera, etc. Jésus n'arrête pas de répéter de une et plusieurs manières, demandez. Parce que Dieu aime donner. Mais voilà, il y a des gens qui ont été bénis, mais qui ne connaissent pas la joie du pardon. Et ça, c'est quelque chose d'important. Parce que le pardon, en plus, ça vous met sur la voie de l'éternité. À quoi ça sert d'avoir... Combien de gens en enfer ont expérimenté 5, 6, 10 expériences et sont en enfer aujourd'hui? Combien ils doivent regretter de ne pas avoir été plus loin dans leur démarche et de ne pas avoir saisi le pardon de leurs péchés. Oui, l'homme qui ne s'approche pas de Dieu, dans la Bible, est comparé à un animal, donc quelqu'un qui n'a pas d'esprit. Et ça, c'est la volonté de l'ennemi qui cherche à nous détruire. Mais voilà, Dieu veut nous conseiller, Dieu veut nous instruire. On le voit dans ce psaume, au verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai ». La voie que quelqu'un doit suivre ce soir, c'est peut-être la voie d'une profonde repentance et de dire « Oui, je parlerai ». Ça s'est passé entre lui et Dieu. Ça s'est passé entre lui et Dieu. C'est vrai qu'il a reconnu devant Nathan, il a dit « J'ai péché ». Il aurait pu dire à ses officiers, il y avait des gardes dans le palais, il aurait pu appeler un garde et dire « Voilà, bon, le prophète, là, vous le raccourcissez, c'était fini ». Est-ce qu'il pouvait le faire? Est-ce que les rois avaient l'habitude d'expédier les affaires courantes comme ça? Est-ce que le roi le faisait ça? Mais vous n'avez pas vu comment des rois étaient capables de faire détruire toute la famille, parfois, pour ne pas avoir d'embrouille. David aurait dit « Écoutez, c'était fini ». Il a préféré être honnête et dire « Oui, il y a un péché dans ma vie. Oui, je suis cet homme-là. Je suis coupable. » Il a pris ça au sérieux. Il a pris ça à cœur. Pas des regrets. « Pardon, Seigneur, et je recommence demain. » Seigneur, c'est une affaire sérieuse. On ne joue pas avec le péché. Nous avons un Dieu qui pardonne. Nous avons un Dieu qui libère. Et c'est là que nous expérimentons la bénédiction. Beaucoup trop de gens aujourd'hui, c'est l'apparence de la piété, c'est l'apostasie dans les églises. Beaucoup trop de gens se disent, Dieu est bon, Dieu est gentil, on va s'en sortir, il n'y a pas besoin de faire tout un plat. Non, il n'y a pas besoin de faire tout un plat. Il y a besoin de céder à ce que Dieu demande. Oui, Dieu pardonne, mais il faut le confesser. Peut-être il faut confesser à quelqu'un. Est-ce que ça peut arriver de demander pardon à quelqu'un? Eh bien oui. J'ai offensé 3 personnes, eh bien je vais voir ces 3 personnes et je leur demande pardon. Après avoir demandé pardon à Dieu. Et la joie reviendra. Vous l'avez déjà vécu? On l'a vécu tous. C'est bien. Enfin, c'est pas bien d'avoir eu un conflit. Mais c'est bien d'avoir vécu la bénédiction du pardon avec quelqu'un. Et là, ce texte-là, il faut prendre au sérieux cette affaire de péché. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je t'ai fait connaître... Mon péché, il n'a pas dit oui, mais c'est la faute du diable. Il aurait pu dire à Nathan, écoute Nathan, tu sais bien combien le diable il est rusé. C'est la faute au diable si je me suis laissé séduire. Et puis cette femme, qu'est-ce qu'elle faisait toute nue dans sa piscine? C'est sa faute. Vous savez, les gens, ils sont tout le temps en train d'accuser les autres. C'est la faute à mon père, c'est la faute à ma mère, c'est la faute à mon frère, c'est la faute au patron. C'est pas sérieux. Je t'ai fait connaître mon péché. Et ça a pris le temps qu'il le demande. Vous avez vu? Ça a été vite, hein? Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, vous voyez, on voit un homme qui a de la volonté, j'avouerai mes transgressions, à qui? Au pasteur? À qui il a dû les avouer? À Dieu. Et ça a pris le temps qu'il le demande. Quand vous avez une phrase, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine, ce qui nous prouve que le pardon est instantané. Ça prend le temps qu'on le demande. Quand on le fait de tout son cœur, et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia. C'est pas merveilleux? Quand on vous dit que Dieu pardonne, des fois les gens me disent, oui, je ne comprends pas, j'ai cherché Dieu, c'est pas vrai. Là, Jésus a dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est écrit? C'est écrit. Si vous ne l'avez pas cherché, si vous ne l'avez pas trouvé, ben c'est que vous ne l'avez pas cherché. C'est sûr que si vous cherchez les clés, que vous avez perdu 3 secondes, je ne les trouve pas. Moi, j'ai perdu mes lunettes, apparemment, et je vais les chercher. Je me souviens, un jour, on était parti, j'avais amené mon neveu dans un stade, dans un grand, c'était pas ça, à la ferme des 50, je ne sais pas si vous connaissez. Et il portait sur lui un bijou que j'avais offert à ma sœur quand j'étais rentré de l'armée. C'est un bijou auquel il tenait, un bijou en or, enfin un truc de Tahiti que j'avais ramené de l'armée. Et lui, il y tenait. Et puis, tout d'un coup, là, on avait joué au foot tout l'après-midi. Et puis, on va pour partir. Il me dit, mon bijou. J'ai perdu mon bijou. On a cherché 2 heures. Et on l'a trouvé. 2 heures. C'est long, 2 heures à chercher dans l'herbe. J'avais les yeux, moi je voyais qu'on allait tout feu d'air. Mais on l'a trouvé. Quelle joie, on était content. Mais c'est pareil avec Dieu. Si vous cherchez, vous trouverez. David connaissait Dieu, il avait besoin de pardon. Je ne sais pas ce que vous avez besoin ce soir. Dieu le sait. Vous savez, il y a des besoins. Il y a des besoins. Est-ce que Dieu peut pourvoir à tous nos besoins? Est-ce que c'est des blagues? Est-ce que c'était pour combler le fond de page de l'Épître aux Philippiens? Quand Paul a écrit l'Épître aux Philippiens, il restait un peu de blanc, il était, je vais rajouter un truc. Ou est-ce que vraiment, il a dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins? Oui, c'est David qui a écrit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Regardez quand même l'expérience qu'il fait. On va relire pour terminer, à partir du verset 5, la fin du verset 5, quand il dit, regardez, tu as effacé la peine de mon péché. Après, il y a une pause, vous savez, une pause musicale, c'était pour que l'on médite sur ce qui venait d'être dit. Alors, après, il encourage les autres. Vous savez, quand on est délivré, on a envie d'encourager les autres. C'est pas vrai? Quand on a été béni, voyez de suite, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. C'est quand le temps convenable? Mais c'est maintenant. La Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est maintenant qu'il faut invoquer Dieu. C'est sans qu'on est vivant qu'il faut le temps convenable. Vous voyez, qu'ainsi tout homme pieux te prie, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement de nouveau. En quelques instants, l'assurance revient. Quand on est pardonné, on a de l'assurance. On le sait. Quand on a des regrets, quand c'est que des regrets, on n'a pas d'assurance. Excusez-moi l'expression, mais on se traîne lentement. D'ailleurs, il le dit. Hein. Je me consumais. Ta main s'apesantissait sur moi. On voit un homme qui se traîne. C'est une expression biblique, hein, se traîner, en fait. J'en profite pour vous le dire. Hein. Vous voyez, mais là, il est de nouveau. Mais non, tu m'entoures de chants de délivrance. Vous avez vu comment ça change vite? Moi, j'ai vu des gens rentrer ici, dans la déprime, et ressortir avec des chants de délivrance. C'est une expérience que Dieu veut que vous fassiez. Alors vraiment, je relis juste le verset 10, on le relit ensemble. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Le méchant, je l'ai déjà enseigné mille et une fois, c'est le croyant qui n'a pas de piété, qui n'a pas de communion avec Dieu. Il croit en Dieu, mais il ne veut pas de Dieu. D'ailleurs, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure dans Ésaïe, il dit que le méchant retourne à l'Éternel. C'est bien la preuve qu'il y était déjà venu et qu'il faut qu'il y revienne. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Il y a une douleur intérieure lorsqu'on ne règle pas les choses sérieusement, consciencieusement, qu'on est là hypocrite. Oui, à l'église, je suis pieux et à la maison, je regarde des saletés. C'est ça, le méchant. Aucune communion avec Dieu, de la superstition surtout. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, voilà, c'est ça, il pratique la justice. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie. Ça change du début, vous ne trouvez pas? Pourquoi? Parce qu'il a confessé, avoué ses transgressions à l'Éternel. On ferme les yeux car il y a peut-être quelqu'un ce soir qui a besoin de faire une expérience pour retrouver cette paix, cette joie, cette assurance, cette espérance, être environné de la grâce de Dieu. Vous vous rendez compte? Être environné de la grâce de Dieu. Il y a peut-être quelqu'un qui souffre vraiment. Oui, il y a de la douleur. Oui, il y a des épreuves. Oui, il y a des combats. Oui, il y a des pièges. Mais il y a un Dieu qui guérit, qui restaure, qui pardonne toutes les iniquités. Il y a un Dieu qui redonne la grâce, qui redonne les chants de délivrance, qui redonne de l'espérance. Oui, quelle grâce de pouvoir chanter à la gloire de Dieu. Je vous l'ai dit, ce psaume, il est tellement, tellement content, David, que Dieu a permis qu'il commence par la conclusion. Heureux l'homme à qui le péché est remis. Peut-être quelqu'un désire que l'on prie pour lui, quelqu'un est dans l'affliction, dans la douleur. Peut-être que vous savez plus trop où vous en êtes, vous dites, mais j'ai besoin d'un attouchement, j'ai besoin de me décider, de me déterminer, j'ai besoin de retrouver le chemin du calvaire, j'ai besoin de retrouver le chemin de la croix, le chemin de Golgotha, là il y a la délivrance. Là il y a la délivrance, oui, moi aussi j'avouerai mes transgressions. à l'Éternel. C'était entre lui et Dieu. Même si Dieu avait utilisé un homme pour lui révéler son péché, la réparation s'est faite entre David et Dieu. Et c'est entre vous et Dieu, peut-être tout à l'heure en rentrant chez vous, plutôt que de vous regarder la télévision, j'en sais rien, mais de vous placer dans sa présence. Seigneur, j'avoue mes transgressions. Oui, j'ai transgressé. Et vous ferez la même expérience. Je répète, non pas un regret du bout des lèvres, une profonde repentance. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce qu'il fait pour l'un, il le fait pour tous les autres. Si Dieu pardonne David, il pardonne tous ceux qui se repentent profondément. Seigneur Jésus, oui, tu bénis l'homme dans lequel il n'y a pas de fraude. Tu as dit que l'homme honnête, vrai, porterait du fruit. Seigneur, tu nous as laissé ta parole pour nous parler, pour nous interpeller. Tu vois celui ou celle qui n'a pas voulu se lever. Je te prie de lui accorder ta grâce et que dans le secret de sa chambre, il puisse t'avouer sa transgression, se placer sous ton regard et obtenir la joie, la paix que toi seul peux donner à un homme qui est environné de ta grâce. Seigneur, nous te bénissons. Nous nous appuyons sur toi. Nous croyons que tu as le pouvoir de délivrer, de guérir, pour la gloire et l'honneur de ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Amen.